Deux points, ouvrez les guillemets. Erdiwa vous invite à une promenade sonore qui dessine la vie sociale dans le Diwa. Arpentez différents villages du territoire, laissez-vous prendre par la main des habitantes et habitantes d'ici qui témoignent de leur mode de vie et de ce qui fait société, ici ou là, dans le Diwa. Une démarche exploratrice, réalisée en partenariat avec la cave de la Drôme.
Lèche en Diwa,
épisode 3,
chez Michel et Marie-Paul. L'histoire continue. On parle d'avant, de la vie du village qui s'est transformée.
Il y a eu aussi le fait que les agriculteurs disparaissant petit à petit, il y a eu la crise épouvantable de la vache folle et de la tremblante du mouton. Donc ici, les troupeaux ont disparu d'un coup, parce qu'on les a abattus. Ma femme et moi, nous avons vu des troupeaux passer devant la maison, là, qui allaient à la bergerie, c'était vivant, il y avait le berger, il y avait les chiens. Nous, on avait une chatte turque qui sautait sur le dos des moutons, enfin, ça crée une certaine vie. Et ça, ça a disparu complètement, puisqu'il n'y a plus de moutons. Il y a eu un épisode, chevaux, parce qu'il y avait des équivalences, un cheval valait je ne sais pas combien de moutons, enfin, bon, bref. Mais ça, c'est en train de disparaître aussi. Et donc, il n'y a plus qu'un agriculteur qui, lui, n'aimait pas les moutons à des vaches. Donc, si vous voulez, au niveau sociologique, ça a complètement changé le tissu. Donc, plus de cochons, plus de moutons, les lavandes, plus de lavandes.
Et vous pouvez parler un peu plus de cette crise de la lavande.
Mais la crise de la lavande, il y a eu deux facteurs. Là, vous parlez à un grand moment, quand j'étais étudiant, parce que moi, j'ai été poursuivi longtemps par les études, mais je gagnais ma vie l'été en ramassant des lavandes, à la faucille. Hein. Tous ces villages, je les connais par cœur, parce que, bon, on se plaçait comme ouvrier agricole. Bon, étudiant... ça peut couper de la lavande, hein, ça peut se couper les doigts et couper de la lavande, pas de problème. Donc la crise, c'est, il y a deux facteurs. Le premier, c'est une maladie, comme beaucoup de maladies, comme l'encre du platane en ce moment, ou ce qui a tué tous les ormes de France, hein, un champignon importé avec les caisses de platane ou de je ne sais quoi des États-Unis dans des... Bon, c'est la mondialisation, hein. Et donc cette maladie qui est un parasite qui va dans les canaux qui portent la sève tue peu à peu la lavande. Et cet insecte s'appelle la cécidomie. Et ils ont essayé des tas de solutions pour créer des plants soit hybrides, soit résistants à la cécidomie. Bon, moi les résultats, je ne peux pas vous les donner scientifiquement. Mais ça n'a pas dû être très, très concluant, puisque peu à peu, les exploitations de lavande ont dû diminuer. Il doit rester 1%, ou un dixième de ce qu'il y avait, moi, quand on était là en pleine... et à Lèche, il n'y en a pratiquement plus qu'un qui fait de la lavande. La deuxième cause, c'est que on a inventé, bien sûr, des parfums de synthèse, qui revenait infiniment moins cher que la cueillette de la lavande, qui à l'époque n'était pas mécanisée. Et même si la main-d'œuvre ne coûtait pas très cher, on faisait venir de Portugal ou d'Espagne des coupeurs de lavande, avec les locaux, quoi, comme moi, étudiant, on ne demandait pas des salaires de fortune, mais il fallait nous payer quand même. Eh bien, ont été importés après, de Roumanie, puis de pays asiatiques, des extraits de lavande, des essences de lavande, qui revenaient infiniment moins cher que ce qui était produit en France. Donc, le fait qu'il y ait une maladie et le fait qu'il y ait la concurrence étrangère a fait que la lavande, peu à peu, a régressé de façon... Ça n'a plus été, si vous voulez, une source de revenus. Moi, j'avais des cousins à Charins, et ils vivaient de moutons, quelques moutons, et de leur récolte de lavande. C'était vraiment quelque chose de très, très important. Maintenant, ça... c'est plus assez rentable pour faire vivre un agriculteur. Alors, quant au tilleul, alors ça a été une catastrophe. Ici, ils étaient encore dans l'appellation contrôlée des tilleuls des baronnies. Moi, quand j'étais gamin, on en ramassait avec mon père et ma mère. Et on vendait ça très bien encore à l'époque. Bon, ça faisait de l'argent de poche. Pour moi et pour mes parents, ça leur faisait un petit complément. Mais le tilleul a été complètement concurrencé par les tilleuls roumains et turcs. Moi, j'ai travaillé pour les affaires étrangères. Donc, on a vécu beaucoup à l'étranger. Et on a vu ça en Turquie. Il y a des forêts de tilleuls qu'ils abattent.
Pour la récolte ?
Oui, pour la récolte. Ils abattent l'arbre. Donc, ça se ramasse par terre, très facilement. Puis la main-d'œuvre là-bas est très bon marché. Et donc, ces importations de tilleuls ont fait que... Alors maintenant, j'ai vu un reportage, ça revient, parce qu'il y a une appellation contrôlée, certifiée, maintenant on revient au circuit court. Bon, j'espère que ce n'est pas un effet de mode, mais en tout cas, c'est en train de devenir ça. Peut-être que pour la lavande, il y aura aussi un créneau de qualité, mais bon, c'est quand même pas des cultures de masse.
Et les tilleuls qu'il y avait dans le village,
ils sont toujours là ? Pas tous. Parce que moi, j'en ai abattu déjà deux. Deux gros qui étaient à l'angle du jardin, là. Tout simplement parce que mon fils aîné les a ramassés un certain temps pour se payer une petite moto. Ben, je croyais qu'Internet marchait plus. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est le téléphone Internet.
Ben, ils disent ça, puis finalement...
Orange, ils disent n'importe quoi, comme d'habitude.
Ça devait être préparé plus vite.
Morette. Moi, j'ai mis pour voir, mais déjà hier, ils disaient que c'était...
Allô ?
Ben, elle enregistre, la demoiselle.
Non.
Oui, ben c'est l'arnaque. Vous avez de l'argent pour votre formation. C'est que nous, même moi, je vais... 78 ans, on m'envoie des annonces comme quoi j'avais un crédit de formation. Vous voyez, je vais me former au Kakoshima ou à la vieillesse absolue. On vit une époque formidable. Bon, peut-être que ça reviendra, mais pas de façon. Je crois pas. Hein. Alors, parce que même si on a une. Parce qu'il y a aussi un autre phénomène. On a une population qui, disons, est une population adventive, c'est-à-dire qui se greffe, si vous voulez, comme vous d'ailleurs, hein, comme beaucoup. Et c'est, je dis bien aussi, c'est pas une critique, ça peut être excellent pour renouveler la population. On dit changer le sang, hein, ici, vulgairement. Bon, c'est très bien. La mixité, c'est très bien. Mais il y a aussi, ça donne une... perception de la ruralité différente. Il y a ceux qui sincèrement veulent découvrir une ruralité profondément parce qu'ils en ont besoin, quoi. C'est carrément charnel, si vous voulez. Et puis vous le savez comme moi, il y en a qui profitent de la manne subventionnelle et qui, une fois la manne disparue, changent de passion, quoi. Bon. Donc ça change aussi les données, vous voyez. C'est une société qui est quelque part est parcellisée. C'est plus avant tout le monde. Moi j'ai vu tomber un toit ici il y a 40 ans. Tout le monde est allé donner un coup de main pour. Maintenant je suis pas sûr du tout que ça se passerait comme ça.
Vous personnellement vous êtes nostalgique un peu de cette société passée.
Alors si pour être sincère. Moi, je ne suis pas du tout passéiste. Donc, je sais qu'il faut que ça évolue. Je vais vous dire, ma femme et moi, et mes enfants, on a vécu dans des sociétés comme en Turquie ou en Syrie, dans les villages. qui avaient conservé toutes les coutumes dont je viens de vous parler ici et qui ont disparu. Mais il est bien évident que quoi qu'ils fassent, ils vont subir le même choc, parce que la mondialisation, je ne vois pas comment on va pouvoir l'arrêter. Donc, je ne suis pas nostalgique. Ce que je regrette, en fait, c'est que ces valeurs qui étaient peut-être essentielles à une société sont complètement diluées maintenant. Dans d'autres valeurs, si on peut appeler ça des valeurs, le gain, l'intérêt, l'orgueil, la fierté. On a connu ça ici, vous savez. Mon tracteur est plus gros que le tien, gnac gnac. Non mais bon, là je vais arrêter parce qu'on entre dans la polémique.
Michel me conte l'événement géologique survenu en 1442, l'éboulement de roches qui créa le site du Claps et un fameux lac.
Et donc, ça crée un lac important, donc les routes ne pouvaient plus passer par là. Donc elles sont passées par les crêtes, et donc l'Esch était sur le chemin. Moralité de la bourgade, disons, qui était tranquille, paisible sur son plateau, à partir du XVe siècle, c'est devenu le lieu de passage. Donc, les diverses autorités y ont mis des officiels, donc une petite garnison, une perception, une régie des tabacs, enfin voilà. Hein. Donc, c'est devenu un bourg important, qui a compté jusqu'à plus de 600 habitants. Alors que maintenant, tout mouillé, on est 40, quoi, et encore... Il faut vraiment se mouiller beaucoup. Quoique, il y a des nouveaux arrivants, mais enfin bon, ça fait pas beaucoup quand même. Oui, oui, oui. Ma femme confirme. Non, parce que je parle sous le contrôle de ma femme, comme toujours. Donc voilà, et le lac a été après asséché. Ce lac, et ça, pour l'histoire drôle, il y a eu des tas de procès avec Grenoble, qui était la capitale du Dauphiné, bien sûr. Pour savoir si qui avait le droit de pêcher dans le lac. Donc les Léchois ont obtenu, vous vous rendez compte, on est sur le plateau, un droit de pêche. Ils avaient droit à un quota de carpes, de poissons blancs, quoi. Puisqu'à l'époque, il y avait du carême, vous savez que le poisson était très important, donc il fallait, bon, même s'ils étaient aussi hypocrites que nous, ils faisaient carême quand même. Bon. Et donc le droit de pêche n'a pas été aboli. Alors, j'ai découvert récemment qu'ils avaient encore le droit de pêche sur une plaine complètement asséchée. Hein. Il y a plus que la Drôme qui coule au milieu. Et ils partageaient le droit de pêche avec les gens de Beaumont et d'un village qui a disparu, qui s'appelait Roche-Briane, qui a été englouti par le lac, et dont on voit que les tours qu'il y a au bord de la route, là, dans le grand virage, là, vous voyez, quand on descend. Au bord de la route, il y a des tours. Et là, il y a le marais des Bouligons.
C'est quoi le marais des Bouligans ?
Le marais de Bouligans, c'est un marais départemental qui longe la voie ferrée tout le long entre Borrières et Luc, quoi, et le Claps de Luc. Ça, c'est le lac. Et le marais du Bouligans, c'est la zone humide qui reste, qui a été rachetée par le département pour en faire une réserve naturelle, qui a été aménagée et qui est remplie de castors. Oui, oui, sans blague. Avec des barrages et tout, c'est superbe. Voilà. Donc, évidemment, quand la route a été rétablie dans le bas de la vallée, alors, il y a eu toute l'épopée du chemin de fer, la route royale, parce que c'était une des routes de conquête d'Italie, vous savez, les fameuses guerres de François Ier et toute la suite. Bon, Napoléon. On prétend même que Hannibal est passé par là, mais enfin, ça, il faudrait le prouver, hein, parce que tant qu'on n'a pas trouvé un éléphant enterré, ça va être dur. Mais donc, Lèche est redevenu un village plus modeste, mais à garder quand même longtemps, parce que c'était bien peuplé, une certaine prééminence, quoi. Les gens du coin qui ont des champs en pente, mes cousins, par exemple, de Charins, disaient « Regarde-les là-bas à Lèche, tout est au plat, ils n'ont pas besoin de beaucoup travailler. Pendant que nous, on s'échine, eux, ils boivent déjà le pastis et ils jouent à la pétanque. » Voilà, c'était une sorte de jalousie, quoi. Parce que c'est vrai qu'ici, les terres sont assez planes. Donc, ça faisait envie un peu. Puis, il y a une spécificité, les choix, c'est qu'il y a des protestants, mais la communauté catholique, papiste, on disait à l'époque, était très importante. Donc, vous voyez, l'église est quand même relativement importante. Et il y a un temple, bien sûr, à la sortie du village, mais les familles protestantes étaient moins nombreuses, quoi. Et dans le Diwa, ça fait un peu tâche, parce que le Diwa était plutôt fondamentalement protestant. C'est une des spécificités de l'Aïche, si vous voulez, entre autres. Quant au problème de l'eau, ici, il y a toujours manqué d'eau. Il y avait même des corvées d'eau. Et aller faire boire les moutons, suivant la richesse du propriétaire, on allait en premier, et puis ceux qui étaient moins riches, ben, ils prenaient ce qui restait. Dans la fontaine qui est enterrée là, à l'entrée du village. Il y a une fontaine sous voûte. C'est la première fontaine séculaire. Vous voulez savoir autre chose ?
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont confié leur voix.
Qui, moi? J'adore ça. Si on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas sa vie. Enfin, bon, c'est un peu bête de dire ça comme ça. Je suis passionné parce qu'en fin de compte, on est déterminé par ce qu'on a été, enfin, ce que les autres ont été avant nous. Sans tous ces gens-là, on serait absolument rien du tout. Et c'est d'autant plus passionnant que plus on étudie, plus on découvre, plus on s'aperçoit qu'on a été d'une prétention totale en croyant qu'on avait tout inventé. Or, déjà, 100 000 ans avant, ou 40 000 ans avant, ils avaient des techniques, ils avaient... Moi, je suis frappé de voir qu'avec des outils en silex, ils arrivaient à faire des choses incroyables, quoi. De voir qu'ils avaient déjà adopté une technologie qui permettait de reproduire des outils, des types. C'est pour ça que moi, l'histoire me passionne, c'est sûr. Et l'histoire, c'est... Si on savait en tirer les leçons seulement. Mais ça, c'est un autre débat. Hein. Puis bon, nous, on a vécu, ma femme et moi, dans des pays chargés d'histoire. La Turquie, il y a des ruines partout. On a visité, quand on était en Syrie, les fameuses villes mortes... du nord de la Syrie, là où ils s'entretuent en ce moment, il y a des trucs incroyables. Et ça ne peut que vous conforter dans l'idée que l'histoire est importante. Bon, ça y est, c'est la fin, hein. Non ? Presque.
C'était deux points, ouvrez les guillemets. Ce jour-là, Lèche en Diwa, épisode 3, à suivre sur RDIWA, la radio du Diwa.